Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. C'est Sporama, le premier numéro de cette année 2018. On vous souhaite bien évidemment une très bonne année 2018, plein de bonheur et la santé pour vous et votre famille. Cette année 2018 qui va évidemment être marquée par de nombreux événements sportifs, le Chan par exemple au Maroc en ce mois de juillet, ou encore bien évidemment la Coupe du Monde 2018, ce sera en Russie cet été. Un numéro un petit peu différent, évidemment, puisque nous sommes ce 1er janvier 2018. Nous ne sommes pas là avec vous en direct, mais nous sommes avec vous par la pensée pour ce numéro enregistré à l'avance. Nous sommes avec vous pour parler, évidemment, de sport. On va parler du football. Vous entendrez au cours de cette émission deux invités spéciaux avec lesquels je me suis entretenu récemment. Tout d'abord, Constant Omari, le président de la Fédération Congolaise de Football. Il est également vice-président de la Confédération Africaine de Football. Et en deuxième partie de cette émission, Sporama, nous aurons le plaisir d'entendre Jérémy Njitap, ancien international camerounais qui a notamment joué avec Chelsea en Europe. Il s'occupe aujourd'hui de la condition des footballeurs africains au sein de la FIFPro, dont il a notamment été nommé dirigeant récemment. Voilà, restez branchés, restez avec vous, que vous soyez dans votre voiture ou avec vos amis. C'est parti pour Sporama. C'est Nicolas Pineau avec vous, comme tous les lundis soirs. Première partie de cette émission spéciale 1er janvier 2018. On écoute cette interview enregistrée avec Constant Omari, le président de la FECOFA, qui revient sur son entrevue avec Florent Imengue, le sélectionneur des Léopards, qui devrait rester à la tête de la sélection congolaise.
L'entrevue a eu lieu le 13 décembre. J'ai reçu tout le staff technique à sa tête, Florent Imengue. Nous avons examiné la situation liée aux éliminatoires de la Coupe du Monde, de leurs prestations. À la fin, nous avons dégagé une identité de vue autour de la poursuite du projet pour lequel nous l'avions engagé. Et cette volonté a été dégagée de part et d'autre, moyennant quelques aménagements sur lesquels nous nous sommes engagés de nous y pencher. Et nous nous rencontrerons prochainement pour pouvoir en discuter. L'essentiel, c'est que la liberté de lui pour continuer à œuvrer ensemble.
Pour le moment, il n'y a pas encore de nouveaux contrats signés, c'est bien ça?
Il n'y a pas encore de nouveaux contrats. L'ancien contrat prévoyait qu'à 3 mois avant ce terme, que nous puissions nous rencontrer pour pouvoir débattre de la poursuite ou pas. Ce sont les discussions que nous avons ouvertes et qui vont continuer. Mais à ce jour ici, on n'a pas encore signé formellement le nouveau contrat.
Mais vous êtes satisfait de son bilan, en tout cas. Hein.
Tout à fait, tout à fait. Nous avons rappelé que nous n'avons pas engagé autour d'un objectif. Nous avons engagé autour d'un projet. Et quand nous l'avions engagé, nous nous étions donné un certain nombre d'années comme marge de sécurité pour travailler sur le projet relatif à la mise sur pied d'une équipe nationale conquérante et efficiente. Mais il se fait que le projet a porté le fruit d'une manière précoce, et à partir de ce moment-là, il était tout à fait normal que nous puissions de commun accord nous mettre d'accord pour pouvoir poursuivre.
On va parler, parce que souvent, voilà, on entend les entraîneurs occidentaux gagner beaucoup, beaucoup d'argent lorsqu'ils sont à la tête de sélection africaine. Est-ce que, Florent Imengue, ça coûte cher?
Non, je crois que vous avez raison. Quand les entraîneurs expatriés, qu'on dit entre guillemets les blancs, arrivent, on leur accorde des conditions hyper favorables par rapport aux propres fils africains. Mais avec Imengue, nous sommes en train de, effectivement, d'examiner la possibilité de le voir à la hausse, puisque son prédécesseur, Claude Leroy, l'a touché un montant donné. Nous allons examiner avec le ministère des Sports, des Finances et des Budgets pourquoi ne pas lui attribuer ce que l'autre touchait.
Combien touchait Claude Leroy?
Écoutez, j'aime pas trop le salaire de l'homme, mais Claude Leroy touche 50 000 euros par mois.
Florent Imengue a amélioré l'image du football congolais, selon vous, depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale en 2014?
Non, il faut faire la part des choses. Entre l'image de l'équipe nationale et l'image du football congolais. L'image du football congolais, ce n'est pas Florent Imengue qui a remporté tous les trophées que nous avons remportés avec l'équipe de Saint-Mazembe, avec l'équipe de Chan. Il a contribué à rehausser l'image de l'équipe nationale et nous avons fourni un grand travail pour ramener notre football à ce niveau. Donc, il n'y aurait pas eu un championnat efficace et important, dynamique, efficient, il n'y aurait pas d'équipe de chaîne compétente. Le championnat, ce n'est pas le seul Florent et Benoît qui l'a fait. C'est la fédération qui l'a organisé.
Et qu'est-ce qui manque, selon vous, au football congolais en général pour passer une nouvelle étape?
La situation aujourd'hui, c'est un financement de ce football. Je le dis et je le redis, il s'agit d'avoir un financement. Qu'est-ce que j'entends par financement? C'est-à-dire le financement de l'organisation des compétitions nationales et locales. Ça a difficulté parce que le niveau de sponsoring est très faible dans ce pays.
Est-ce qu'on peut totalement occulter aussi la situation politique? Est-ce que ça n'effraie pas les investisseurs potentiels dans le football congolais?
Je ne voudrais pas verser sur le terrain politique. Je ne suis pas un politique, je fais la politique du football, mais pas la politique politicienne. J'observe que globalement, le climat des affaires n'est pas bon, il est malsain. Donc à partir de ce moment-là, c'est tout à fait normal que le football, étant une activité à part entière bénéficiaire du climat des affaires, ne puisse pas en bénéficier.
Peut-être revenir sur ce succès du tout-puissant Mazembe. C'est une satisfaction pour le président de fédération que vous êtes?
Écoutez, c'est une très grande satisfaction pour le président que je suis, parce que c'est la consécration aussi du management que le président du tout-puissant Mazembe a instauré au sein de son club. Ça fait plus de 10 ans que M. Moïse Katumbi a investi autant d'argent et a investi dans le développement du management de son club, dans l'organisation de son club, qui justifie aujourd'hui la position prédominante qu'occupe ce club dans le Conseil du football africain depuis une décennie. Donc, il est tout à fait normal que la fédération soit satisfaite.
On manque d'autres Moïse Katumbi dans le football congolais, selon vous, pour avoir 4, 5 équipes qui puissent briller sur le continent?
J'observe que le club Association Sportive Vita Club, à sa tête le général Amissi, est en train de fournir un effort pour produire, si pas le même modèle, mais un modèle similaire au tout-puissant Mazembe. J'observe aussi les efforts fournis par M. Ngoï Kassandji, pour son équipe Sanga Balemie. J'observe les efforts fournis au sein du Terrain Club Moté Mapembe. Bien sûr que tous n'ont pas encore atteint le niveau de Moïse Katumbi, mais mon espoir, c'est qu'il puisse atteindre, si pas approcher son niveau, pour nous permettre d'avoir 4, 5, 6 Moïse Katumbi dans le football. Voilà.
Autre sujet, président, on a évidemment la FECOFA. Évidemment, vous êtes à la tête de la fédération, si je ne m'abuse, depuis 2005. Vous serez le seul candidat à votre succession. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, effectivement, je suis à la FECOFA. J'avais été élu sur base d'un projet que j'avais présenté à l'Assemblée générale. Je pense que tous les indicateurs au jour d'aujourd'hui sont au-delà de la moyenne supérieure. Parce que effectivement, nous avions un objectif, c'était de nous qualifier à la Coupe du Monde cette fois-ci, d'ici 2018. Mais malheureusement, à un point près de la qualification, nous étions la bourde de Kinshasa contre la Tunisie, on allait réaliser tous nos objectifs. Mais je crois que j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais assigné à la tête de la fédération, à savoir remettre le football congolais. D'abord, centre de préoccupation des Congolais, remettre le championnat à un niveau plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, notre championnat, c'est plus le top 5 des championnats en Afrique. Remettre l'équipe nationale sur une bonne trajectoire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à être 28e ou 25e sur le classement FIFA. Ça signifie qu'il y a des lieux d'espoir. Et nous sommes en train de travailler sur les équipes des jeunes, le développement. Au niveau de la formation, nous avons formé beaucoup d'entraîneurs. La preuve, c'est que beaucoup d'équipes, que les grandes équipes congolaises ne sont entraînées que par les sportifs congolais. Donc, je crois que le projet que j'ai démarré me permet de croire que je peux continuer et le réaliser.
Et l'alternance, est-ce que vous pensez un jour passer la main?
Je n'aurai pas la tête de la FECOFA quand même. Je ne suis pas un empereur.
Est-ce qu'on peut dire que ce serait votre dernier mandat?
Écoutez, moi, je n'aime pas parler du premier, du dernier ou de l'intermédiaire. J'aime bien parler de mon projet que je réalise. Et le reste, si d'aventure, les résultats ne suivent pas, ça peut être mon dernier mandat. Mais si les résultats sont très favorables, tout dépendra. Et ensuite, que je ne m'impose pas, c'est l'Assemblée générale qui décide. Ce sont les entités subdélégataires qui estiment que si, il faudrait continuer. Et ensuite, il y a un élément important, c'est que tous ces résultats sont réalisés dans un environnement qui est très vicieux, donc qui est très difficile. Au jour d'aujourd'hui, si un président n'a pas des reins solides, je ne vois pas comment ce se fait au matériel. déjà, avec le moment de départ, nous arrivons à ces résultats, parce qu'on essaie de s'imposer d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un arrive et qu'il n'a pas la capacité, qu'il n'a pas un leadership qui peut l'affirmer, il risque de dégringoler. Voilà. Donc, il faudrait bâtir le football comme une équipe beaucoup plus solide avant le début.
Vous êtes également vice-président de la Confédération africaine de football. Avez-vous le sentiment que la révolution est en marche?
Effectivement, la révolution est en marche. Nous avons fait des réformes. Nous avons limité les mandats au niveau du comité exécutif. Nous avons supprimé le système de cumul qui existait au niveau des membres du comité exécutif de la CAF et du conseil de la FIFA. Nous allons passer à 24 équipes lors de la prochaine CAN. Nous avons revu les stratégies organisationnelles et les cahiers de charge d'une compétition, notamment le CHAN et la CAN. Nous sommes en pleine négociation avec la Gardère pour pouvoir revoir un peu sur certaines clauses du contrat qui liait la CAF à Bein Sport. Donc, il y a, au niveau de l'arbitrage, il y a une série de réformes que nous sommes en train de lancer. Donc, la révolution, ça marche.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas.
À moi de vous remercier.
Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique, émission spéciale en ce 1er janvier 2018. Après cette interview avec Constant Omari, le président de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football, je vous propose à présent d'entendre un autre entretien réalisé avec Jérémy Njita, ancien international camerounais de football, qui est aujourd'hui l'un des dirigeants de la FIFPro, c'est l'association des joueurs professionnels de football dans le monde. Je l'ai joint récemment après le congrès de la FIFPro. Il est en charge de la défense, des droits, des intérêts des joueurs professionnels africains. On écoute cet entretien réalisé avec Jérémy Njita.
Bien, pour la petite histoire, déjà pour moi, j'ai commencé à jouer en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Et puis, je suis allé en Europe. En Europe, j'ai vu comment les joueurs sont protégés, les joueurs ont des représentants. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas en Afrique. Et chose curieuse, Monsieur David Maebi, qui est venu pendant que nous étions en stage avec l'équipe nationale, nous rencontrer et nous a fait part de son projet, de son association qui était la voix exclusive des joueurs et qui défendait les intérêts et les droits des joueurs. Moi, j'ai pas hésité parce que je me suis dit, connaissant le Cameroun et connaissant, ayant évolué au Cameroun, les joueurs n'avaient pas ce genre d'association. Je suis passé tout de suite membre, je n'ai pas hésité de m'adhérer. Et après, pendant ma carrière encore, pendant que je jouais, le président Maebi a vu que j'étais très intéressé. Il m'a abordé directement et il m'a proposé le poste de conseiller, son conseiller, lui étant président. Et je vais vous rappeler que effectivement David Maebi, c'est le fondateur du syndicat que je tiens aujourd'hui, et qui aujourd'hui n'est plus là, qui est décédé. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez suivi la petite histoire, il est décédé il y a un an. Alors c'est lui qui m'a convaincu. Je suis passé du poste de président à de conseiller. Pendant que j'étais en activité et après que j'ai arrêté ma carrière, j'ai décidé de le suivre. Il m'a pris sous son aile, il m'a inculqué le rôle syndical, il faut le dire, l'esprit syndical. Il m'a amené, il a commencé à m'amener dans les réunions de la FIFPro, je voyais comment ça se passait. Et moi, j'étais très intéressé parce que je sais qu'en Afrique, les joueurs africains en ont vraiment besoin. Besoin parce que vous savez très bien qu'on parle du professionnalisme en Afrique, mais la majorité des championnats ne sont pas professionnalistes. Les joueurs sont tellement maltraités, les présidents des clubs signent des contrats et ils ne respectent pas leur engagement. De l'autre côté, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi cet engagement en tant qu'ancien joueur. Je crois qu'en tant qu'ancien joueur, je me dois de renvoyer l'ascenseur à mes jeunes petits frères qui évoluent en Afrique parce que je sais quel genre de difficultés ils rencontrent. Donc, je crois que l'implication en tant qu'ancien joueur, pour moi, c'est une façon de leur envoyer l'ascenseur, d'éviter les obstacles que nous avons eu pour réussir dans la carrière que nous avons choisie. Donc, pour moi, je suis engagé, je me dis, en tant qu'ancien joueur, je peux facilement véhiculer le message à mes jeunes petits frères et puis évidemment les représenter valablement.
L'une des principales difficultés pour les joueurs africains, c'est d'être payé à temps ou d'être payé tout court. Comment changer les choses ?
Ben écoutez, je vous ai parlé du professionnalisme. Le plus important déjà, c'est effectivement de respecter les engagements de part et d'autre, c'est-à-dire si les présidents des clubs un contrat, ils doivent respecter leurs engagements. Et je me dis que quand on décide d'être professionnel, footballeur professionnel, ça veut dire que c'est un métier. Et un métier devrait être, celui qui pratique un métier doit être rémunéré par rapport à son métier. Donc, son salaire doit passer, si c'était dans le contrat, si ça doit passer chaque mois, effectivement, chaque mois, il faudrait qu'il soit payé. De l'autre côté aussi, je crois que les joueurs ont aussi un engagement. Ils respectent leur engagement, ils doivent respecter leur engagement. Alors, je crois que l'important, c'est de payer, de respecter leur engagement.
Mais comment y arriver, par exemple? Vous imaginez des sanctions pour les clubs? Comment vous voyez les choses?
Ben écoutez, c'est un gros chantier, surtout en Afrique, parce que, comme je vous ai dit, ayant évolué en Europe, ils sont beaucoup avancés. En Afrique, il faut encore beaucoup de travail. Je crois que avec les accords que nous commençons à avoir, surtout le rapport que nous commençons à avoir avec le patron du football africain, je veux dire le président de la Confédération africaine de football, qui nous encourage et qui veut vraiment collaborer avec nous, c'est une très grande avancée parce que, passant par lui, c'est à lui de renforcer des messages auprès de ses membres, ses membres qui sont les présidents des fédérations et au président des fédérations, effectivement, d'encourager les présidents des clubs, de ceux qui ne respectent pas leur contrat, ceux qui ne respectent pas leur obligation, de respecter leur contrat, leur engagement. Donc, je dis, petit à petit, les choses sont en train d'avancer. Nous avons, après notre congrès, on a eu un très bon discours du patron du football africain qui veut vraiment travailler avec nous parce qu'effectivement, nous voulons contribuer au développement du football africain. C'est ça, nous, la promotion, promouvoir le football africain, c'est nous, on veut contribuer parce qu'on a effectivement de l'expérience. Parmi nous, ce sont des anciens joueurs, comme vous le savez, ceux qui ont évolué dans des grands championnats, ceux qui ont, certains sont des légendes. Donc, du coup, on peut contribuer à ce développement du football et le bien-être des footballeurs africains.
Un engagement avait été signé entre la CAF et la FIFPro Afrique en 2011 pour lutter contre sa précarité.
Oui.
Rien n'a été fait ?
Tout à fait. Il faut le dire que l'ancien comité exécutif, effectivement, n'avait pas respecté. Mais je crois que depuis que nous avons, comme je vous ai dit, rencontré le nouveau patron du football africain, je crois que d'ici là, je crois qu'on va renouveler cet accord.
L'un des représentants de la FIFPro, le président d'honneur de la section d'Afrique, Didier Drogba, disait il y a quelques mois, les footballeurs africains sont maltraités. Vous êtes d'accord avec cet engagement ?